ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 12 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle heure ce midi, notre émission Ça vaut le détour. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Mardi 12 avril, c'est la journée nationale de la réglisse aux États-Unis. Voilà, c'est le fait divers de la journée. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter avec @canal_m pour commenter l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. La compagnie de télécommunications Bell a annoncé à la fin février une nouvelle gamme de produits et de services de soutien qui rendent les communications mobiles plus accessibles aux clients ayant des troubles de la parole ou des déficiences cognitives, physiques, auditives ou visuelles. On parlera de l'accessibilité accrue des services mobiles de Bell avec M. Nicolas Poitras, vice-président service résidentiel de Bell, à 12h45. On reçoit aussi en studio Mme Geneviève Genet, intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, pour leur chronique mensuelle. Il sera question des différentes publications offertes aux membres pour répondre aux besoins des familles. Et dans le cadre de notre série En route vers Rio, à Ça vaut le détour, on s'entretient avec plusieurs acteurs dans le milieu sportif et des athlètes de haut niveau. Tout ça pour entretenir la fièvre des 15e Jeux paralympiques d'été qui auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en septembre 2016. Aujourd'hui, on parle du rôle du Comité paralympique canadien avec la directrice exécutive sport, Mme Catherine Gosselin-Després. Mais tout d'abord, on commence l'émission avec notre coup de chapeau de la semaine. Vous le savez, chaque semaine, l'équipe de Canal M souligne le travail exemplaire d'un individu ou d'un organisme se démarquant par une initiative favorisant la participation sociale des personnes handicapées. Cette semaine, on se tourne vers la ville de Québec et on découvre les éditions Midi 30, spécialisées en psychologie, pédagogie, enfance et famille. Pour nous parler plus en détail de leur collection, je joins au téléphone Mme Jacinthe Cardinal, éditrice aux éditions Midi 30. Bonjour Mme Cardinal.
Bonjour, Mme Pomerleau.
Merci d'être avec nous ce midi.
Ben, merci de l'invitation.
L'histoire de votre entreprise est très récente. Quel était votre but en fondant les éditions Midi 30?
Ben, en fait, ma collègue et moi, Marianne Tremblay et moi, nous sommes les deux fondatrices des éditions Midi 30. On travaillait déjà en édition depuis quelques années. Et lorsqu'on a fondé les éditions Midi 30, c'était vraiment pour répondre aux besoins des familles, des intervenants, des enseignants qui voulaient avoir des ouvrages pratiques, vraiment très, très concrets, axés sur l'intervention immédiate. Donc, vraiment des guides de vulgarisation, des ouvrages pratiques en psychologie, éducation, en santé. Donc, c'était vraiment ça l'idée, c'était de faire les ouvrages le plus accessibles possible, des choses faciles à lire, compréhensibles, donc plus simples peut-être que des ouvrages trop théoriques ou tout ça. Donc, c'était vraiment ça l'idée à la base.
Mm-hmm. Est-ce que c'était parce que vous remarquiez que c'était un créneau qui n'était pas encore exploité dans le domaine de l'édition?
Oui, en fait, il y a plusieurs éditeurs, évidemment, qui font des guides pratiques, mais nous, ce qu'on souhaitait, c'était d'aller encore plus loin, de vraiment communiquer l'intervention, si on peut dire, communiquer les outils d'intervention d'une manière qui soit compréhensible pour les non-professionnels, pour les enfants, pour les adolescents. Donc, oui, il y avait un besoin qui était assez prégnant de ce côté-là, d'avoir des ouvrages plus pratiques, peut-être plus axés sur l'intervention immédiate. Donc, mm-hmm. C'est un peu ça l'idée.
Et justement, vos livres s'adressent, il y a des livres qui s'adressent aux jeunes, aux enfants, oui. Aux adolescents, et d'autres qui s'adressent plutôt aux parents ou aux professionnels.
Voilà, exactement. Donc, des livres qui sont écrits dans les mots des enfants, dans les mots des ados. On veut s'adresser directement à eux. Mais évidemment, souvent, ça va être les parents, les enseignants, les intervenants psychosociaux qui vont le lire avec ces jeunes-là. Donc, ça devient vraiment un outil travail, une sorte de manière d'aborder une problématique avec le jeune dans ses mots.
Mm-hmm. Voilà. Madame Cardinal, ce qui a attiré notre attention ici à Canal M, on a découvert, en fait, votre collection « Laisse-moi t'expliquer ».
Oui.
Pouvez-vous nous parler de l'intention derrière cette collection ou des thèmes qui y sont abordés?
En fait, la collection « Laisse-moi t'expliquer » compte déjà quelques ouvrages. Ce sont, écoutez, on ne sait pas trop comment appeler ça, c'est des albums de vulgarisation de l'intervention. En fait, l'idée, c'est de s'adresser directement à l'enfant et de lui expliquer une problématique. Donc, on a des thèmes qui sont abordés, par exemple, il y a la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, l'autisme. On est allé aussi du côté de la santé avec les allergies alimentaires, le diabète. Donc, on explique vraiment, dans les mots des enfants, ce qu'est, par exemple, la dyslexie. Et donc, ça devient effectivement un ouvrage qui aide à mieux comprendre. L'enfant permet de mettre des mots sur son état ou de mieux comprendre le diagnostic, par exemple, faire de la sensibilisation aussi, d'expliquer, mais vraiment dans les mots des jeunes.
Mm-hmm. Donc, le but des livres est à la fois de sensibiliser et d'expliquer.
C'est ça.
On y trouve aussi des trucs pour le quotidien.
Oui. En fait, dans ces livres-là, il y a tout ce que vous nommez, exactement. Donc, on veut sensibiliser les jeunes qui présentent la problématique qui est abordée. Les jeunes de l'entourage aussi, hein, des fois, c'est dans une classe, par exemple, de mieux comprendre ce qu'est la dyslexie permet de mieux comprendre ce que vit mon petit copain de classe qui est assis à côté de moi, pourquoi lui a droit à plus de temps, pourquoi lui a droit à un ordinateur, bon, peu importe. Donc, de sensibiliser, d'expliquer. Puis, on donne beaucoup de stratégies aux enfants pour surmonter leurs difficultés, pour mieux vivre avec ça, puis aussi pour bâtir leur estime de soi à travers tout ça, pour garder leur confiance, pour bâtir sur leur force. Donc, on a toujours cet angle-là psychosocial aussi qui fait partie de ces ouvrages-là.
Mm-hmm. Est-ce que la collection est appelée à s'étendre? Est-ce que, par exemple, on pourrait éventuellement aborder d'autres types de conditions comme des handicaps moteurs, visuels ou intellectuels?
On aimerait beaucoup ça, évidemment. Ce sont des choses qui nous sont demandées de temps en temps. Donc, je fais un appel aux intervenants, ceux qui travaillent dans les domaines que vous nommez, donc qui auraient une expertise à partager, qui aura envie d'en parler. Évidemment, la collection est très ouverte à ce genre de thème-là. Donc oui, j'espère que ça s'en vient. On n'en a pas pour l'instant, mais en tout cas, peut-être que je serai entendue puis qu'il y aura des professionnels qui voudront se lancer. Ça serait vraiment intéressant.
Oui, justement, parce qu'il faut le dire, la collection « Laisse-moi t'expliquer », ce sont différents auteurs.
Oui.
Ce n'est pas toute la même personne qui a écrit ces différents thèmes.
Non, en fait, nos auteurs, ce sont des intervenants. Des enseignants, des fois des mamans qui vivent avec des situations spécifiques, qui souhaitent partager leur expertise, leur expérience, toujours dans l'angle de faire des ouvrages qui sont des guides pratiques et tout ça. Mais oui, effectivement, on a des psychologues, des techniciens d'éducation spécialisés, des psychoéducatrices. Oui, ce sont des gens qui détiennent une expertise spécifique qui écrivent dans ces collections-là.
Mm-hmm. Les éditions Midi 30 sont aussi présentes dans des salons et congrès. Ça doit s'agir d'une belle occasion de recevoir de la rétroaction.
Vraiment, oui. Et puis, je vous dirais à cet effet-là que nous, on se plaît souvent à dire qu'on est les meilleurs clients au monde parce que, les gens qui achètent nos livres, c'est des gens qui veulent changer les choses.
Mm-hmm.
C'est des gens qui veulent aider les jeunes, qui veulent aider les ados qui sont aux prises avec des difficultés. Puis, on entend beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Donc, les gens trouvent, en tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très... très intéressant d'entendre leurs commentaires parce qu'on sent que ça aide vraiment, on sent que ça répond à un vrai besoin et que les enfants trouvent vraiment une sorte de réassurance là-dedans, de l'information qui les aide. Donc oui, c'est toujours très, très enrichissant pour nous d'aller dans les congrès et dans les salons du livre. D'ailleurs, on va être au Salon du livre de Québec à partir de demain. Donc, pour ceux que ça intéresse, de mercredi à dimanche, c'est le Salon du livre de Québec, on va être là.
Et vous avez aussi plusieurs livres qui traitent de la maladie mentale chez les enfants ou les parents.
Oui, en fait, on a plusieurs thèmes qui sont abordés. On parle de maladies mentales, on parle de santé mentale, évidemment, aussi. Mm-hmm. Pour les enfants, par exemple, qui vivent avec des parents qui ont des problèmes de santé mentale, on a des ouvrages qui s'intéressent à ça. On a beaucoup de choses aussi sur plein d'autres thèmes. Bon, le TDAH, l'estime de soi, les émotions, les problèmes de comportement. On va aussi travailler sur les habiletés sociales, sur l'estime de soi, sur l'anxiété. On a plusieurs livres sur l'anxiété. C'est quelque chose qui est assez présent, hein, dans les écoles. On entend de plus en plus parler de l'anxiété chez les enfants, chez les adolescents. Donc, oui, toutes sortes de thèmes qui gravitent autour de la santé mentale, des comportements, des émotions. Ça tourne vraiment autour de ça.
Est-ce que, quand on parle de distribution au Québec, on présume qu'on peut trouver vos livres dans plusieurs librairies. Est-ce que ça se rend dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'intervention?
Oui, c'est ça. On est connu principalement dans les milieux d'intervention et dans les milieux scolaires, dans les centres jeunesse aussi, de plus en plus auprès des familles, tant au Québec qu'en Europe. Hein. On a une belle distribution en France, en Belgique, en Suisse, donc de plus en plus d'enfants et d'ados européens commencent à lire ce qu'on fait au Québec en intervention. On est bien fiers de ça. Certains de nos livres sont traduits aussi, donc on a traduit justement la collection « Laisse-moi t'expliquer » dont nous parlions tout à l'heure. Elle a été traduite en coréen, ce qui est quand même assez surprenant. Mm-hmm. Et on a aussi des livres en espagnol, comme le livre « Parents gros bon sens » de Nancy Doyon, par exemple, qui a été traduit en espagnol. Donc, on a une belle distribution, c'est vraiment intéressant, dans toutes les librairies aussi. Puis, c'est ça.
Et justement, comment est-ce que ça s'est passé, cette belle histoire? En fait, c'est un beau succès à l'international. Félicitations. Oui. Comment ça s'est passé, cette approche-là et cette collaboration-là avec des maisons d'édition européennes?
En fait, en Europe, on a été approché par un distributeur qui s'appelle Pirouette Édition en France, qui s'intéresse au même thème que nous, qui travaille dans les milieux d'intervention et dans les milieux scolaires aussi. Et donc, ils ont commencé à présenter nos ouvrages. On est allé quelquefois avec eux dans des salons de l'éducation, dans des congrès en France et en Belgique. On a donné des conférences, des choses comme ça. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment que les Français et les Belges regardent vers le Québec, hein. Ils regardent ce que font nos intervenants ici, regardent ce qui se passe en psychologie, en psychoéducation. Ils sont très intéressés à ce qui se passe ici. Donc, nous, on est arrivés à ce moment-là. Et puis, bon, nos livres ont commencé à être distribués là-bas, puis connaissent un beau succès. Donc, c'est vraiment, on est vraiment fiers, en fait, parce que c'est presque surprenant. Mm-hmm. Mais c'est intéressant. Puis, on reçoit de plus en plus aussi de commentaires de nos lecteurs européens via Facebook, entre autres. Donc, des demandes aussi. Donc, c'est une belle plateforme pour nous. Puis, c'est vraiment, on est fiers de diffuser le savoir, l'expertise de nos intervenants québécois, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, oui, ça va très bien.
Bien, merci beaucoup, vraiment. Je rappelle que vous êtes notre coup de chapeau de la semaine. Ah, cette belle collection, laisse-moi t'expliquer. On invite, à féliciter vos auteurs, premièrement, et on invite d'autres auteurs à participer à cette belle collection. On peut trouver plus d'informations sur votre site web midi30.ca, midi30 en toutes lettres, donc il n'y a pas le chiffre 30 n'est pas là. Merci beaucoup, Jacinthe Cardinal. Vous êtes éditrice aux éditions Midi 30. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon succès encore.
Merci beaucoup, Madame Pomerleau. Bonne journée.
Tu avais les ongles longs, j'avais les ongles courtes. Toi, l'île et moi, le littoral. On a fait sauter le pont, croiser nos langues mortes, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme si on vidait la banque, cette impression de manque. Icar cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, ta peau de mescaline. Reste là encore quelques minutes.
les jours sont si courts. Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Oh mon belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? J'ai pris ton cœur de corail. C'est vrai, je me suis fait mal. Mais tu restes mon trésor national.
J'adore cette chanson de Patrice Michaud, Mécanique générale, tirée de son album Le feu de chaque jour, paru en 2014. Depuis le début du mois d'avril, on vous présente chaque semaine une entrevue avec des acteurs importants dans le milieu sportif, dans le cadre de notre série En route vers Rio. La fièvre des 15e Jeux paralympiques d'été qui auront lieu en septembre commence à se faire sentir. Aujourd'hui, on s'entretient avec Madame Catherine Gosselin-Després, directrice exécutive sport au Comité paralympique canadien. Bonjour, Madame Gosselin-Després.
Bonjour, Maxime. Ça va bien?
Ça va très bien. Vous-même?
Merci. Ça va très bien.
Avant d'entrer plus précisément dans le rôle du Comité paralympique canadien pour les prochains Jeux qui s'en viennent, j'aimerais qu'on fasse un petit historique des Jeux paralympiques tout d'abord. Depuis quand existent-ils et surtout depuis quand le Canada y prend part?
Oui, ben les premiers Jeux ont commencé c'était en 1948 à Stoke-Mandeville et puis c'était principalement des Jeux pour des athlètes en fauteuil roulant. Mais c'est vraiment comme ça que le mouvement a commencé. Puis après ça, il y a eu des différents événements sportifs là, à différentes périodes là, pour encourager la participation des personnes handicapées, que ce soit en fauteuil roulant. Puis il y a eu d'autres handicaps qui se sont ajoutés là, à travers le temps. Puis, je dirais qu'au Canada, vraiment, pour nous, ça a commencé en 1976. Il y a eu les Jeux de Montréal du côté olympique, mais mm-hmm. on a aussi été les hôtes des Jeux paralympiques cette année-là à Toronto. Donc, à ce moment-là, ça a fait que le comité paralympique a dû un peu se mobiliser puis tout ça. Ça s'appelait pas le comité paralympique à ce moment-là, là, mais... pour être les autres des Jeux, il y a dû avoir une mobilisation puis un groupe qui a dû se former. Puis à ce moment-là, le gouvernement fédéral a commencé à reconnaître le mouvement puis à financer les organismes impliqués dans le mouvement paralympique ou d'athlètes avec un handicap. Là, dans ce temps-là, on n'utilisait pas le mot paralympique mm-hmm. comme on le fait aujourd'hui, si on veut dire.
Donc les premiers Jeux à Toronto en 76, parce qu'il faut le dire, c'est depuis 92 en fait que les Jeux paralympiques ont lieu dans les mêmes installations et plus ou moins et tout près au même moment de l'année que les Jeux olympiques réguliers, ce qui n'était pas le cas pour Montréal en 1976. Vous êtes dans votre 40e année finalement d'activité, puisqu'on est en 2016, les prochains Jeux s'en viennent en septembre. Quel est votre rôle au Comité paralympique canadien?
Ben, en termes du comité comme tel, nous, on a différents mandats, si on veut. Là, un des rôles principaux, c'est définitivement de promouvoir le sport pour les athlètes handicapés au Canada, puis s'assurer que il y a des opportunités pour eux de pratiquer le sport de haut niveau. Une des choses qui est aussi un de nos mandats principaux, c'est d'amener les équipes aux Jeux paralympiques. Donc, c'est nous qui est un peu qui a le mandat de préparer les équipes, de s'assurer qu'ils sont sélectionnés selon les diverses règles établies par le Comité paralympique international puis les comités organisateurs. Puis aussi, ben, c'est de travailler en collaboration avec nos membres, qui sont nos fédérations sportives, puis s'assurer qu'eux, ils ont vraiment tous les outils puis les ressources en place pour pouvoir justement développer des participants en athlètes, puis pour nous permettre d'avoir des résultats là, au niveau international dans les disciplines sportives spécifiquement.
Pour se qualifier aux épreuves, justement, les athlètes doivent répondre à des critères stricts, des qualifications. Est-ce que ça fonctionne de la même manière que pour les jeux réguliers?
Ouais, ben, en fait, ça, c'est pas mal le même principe. Là, c'est sûr qu'il y a des petites différences en termes de chaque sport, là, des sélections un peu différentes. Là, mais le Canada, par exemple, on va avoir des quotas par sport. Puis qui sont établis par les fédérations internationales. Puis une fois qu'on a ça, ben c'est nos fédérations internationales nos fédérations nationales qui établissent leurs propres critères de sélection qui doivent rencontrer le critère international. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on valide que le processus a été suivi. Puis à ce moment-là, ils peuvent nommer les athlètes sur l'équipe canadienne. Donc, il y a plusieurs petites étapes, là, mais c'est pas mal similaire que du côté olympique.
Mm-hmm. Vous l'avez dit, le comité contribue aussi au développement du sport et des athlètes. Vous avez divers programmes pour favoriser la pratique du sport chez les jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles.
Oui, exactement. Nous, ce qu'on prend à cœur aussi, c'est d'avoir des activités sportives intégrées, là. Donc, s'assurer que les cours d'éducation physique sont intégrés, puis aussi que s'assurer que les jeunes avec un handicap sont capables de pratiquer l'activité physique comme ceux qui en ont pas, si on veut. Mm-hmm. Donc, on a des programmes comme la semaine scolaire paralympique qui va avoir lieu du 25 au 29 avril cette année, qui va promouvoir justement les Jeux de Rio. On a aussi un programme qui s'appelle « S'amuser grâce au sport ». Donc, ça, c'est vraiment un programme pour les professeurs d'éducation physique ou les gestionnaires de camps d'été pour s'assurer qu'ils puissent avoir les outils en place pour pouvoir animer des activités qui sont intégrées et qui, dans le fond, promouvoient la pratique des sports paralympiques.
Mm-hmm. Vous avez aussi un programme pour les anciens athlètes.
Oui, exactement. C'est sûr que une des choses qu'on veut toujours quand on a des comités comme nous là, c'est de s'assurer que nos athlètes ont une place après leur carrière en tant qu'athlète, puis s'assurer aussi que le mouvement est connu à travers leur perspective. Donc, on a plusieurs programmes là pour supporter les athlètes. Donc, on a des programmes là où les athlètes peuvent aller parler soit dans des compagnies, soit dans des écoles, puis ils peuvent avoir une rémunération quand ils font ces différentes choses-là. Aussi, on a des programmes où on encourage nos athlètes à participer sur différents de nos comités à l'interne ici. Là, c'est des comités bénévoles. C'est sûr que ça, c'est moins rémunéré. Mais on essaie de les engager le plus possible. Et comme vous savez sûrement, on essaie d'engager aussi nos athlètes là, dans des positions de leadership comme notre chef de mission pour Rio, Chantal Petitclerc, notre athlète la plus décorée. Donc, on essaie toujours de promouvoir qu'il y ait une vie après le sport, si on veut, puis qu'on puisse promouvoir le mouvement à travers leurs expériences à eux.
Oui, justement, Chantal Petitclerc, votre chef de mission pour les Jeux de Rio, elle a beaucoup contribué à faire connaître le sport, en fait, le sport paralympique au grand public, entre autres via les médias, le fait qu'une course en fauteuil roulant soit maintenant télévisée dans le cadre des Jeux olympiques réguliers. Ça fait partie aussi de votre mandat du comité paralympique d'amener les médias et le public à s'intéresser à ces sports.
Oui, exactement. Donc, de plus en plus, on essaie de promouvoir puis s'assurer qu'il y a du couvrage, de la couverture médiatique pour les Jeux paralympiques, puis que ce soit d'hiver ou d'été. Là, donc, notre équipe de communication ici travaille de très près avec le comité organisateur, puis le comité paralympique international pour s'assurer qu'on puisse acquérir les droits de télévision au Canada, puis que ça puisse être à la télévision, mais aussi sur les différentes plateformes web. Pour Rio, actuellement, sont en train de finaliser les détails, mais on devrait avoir le plus haut niveau de couverture là, qu'on a jamais eu en termes de sport d'été paralympique là, sur les différentes plateformes web, puis aussi à la télévision, principalement, je dirais, à Radio-Canada, CBC en anglais, puis certains autres postes là, qui vont offrir une couverture au Canada. Donc, les détails sont en train de se finaliser.
Mm-hmm. Il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on aborde le rôle de la Fondation paralympique canadienne.
Oui, donc notre fondation a été renouvellement, elle vient de se faire renouveler là, si on veut. Donc on a un nouveau conseil d'administration et puis le mandat a été établi pour cette fondation-là. Donc leur rôle, c'est vraiment de s'assurer de trouver des donateurs qui vont pouvoir nous procurer les fonds pour pouvoir faire toutes les activités dont on a besoin là, pour que ce soit amener les équipes, supporter nos fédérations sportives et puis tout ça, même la promotion des sports. Donc, il y a différents programmes dans la fondation où les donateurs peuvent contribuer. Donc, c'est certain que vous allez en entendre parler de plus en plus là. Donc, parce que maintenant, on a plus d'employés qui travaillent à la fondation puis qui vont promouvoir ça à l'externe pour s'assurer qu'on ait des donateurs puis une masse de donateurs qui vont nous donner des fonds là, continuels pour supplémenter ce qu'on reçoit du gouvernement actuellement puis de nos commanditaires.
Mm-hmm. Madame Gosselin-Després, en terminant, la délégation canadienne à Rio se composera d'environ combien d'athlètes? Qui faut surveiller?
Oui, actuellement, on pense avoir environ 150 athlètes. C'est sûr qu'on n'aime jamais faire trop de prédictions là, parce que tout le monde doit passer à travers un processus de qualification. Mm-hmm. Mais actuellement, on sait déjà qu'on a des équipes de qualifiés comme par exemple le basketball en fauteuil roulant masculin et féminin, le rugby en fauteuil roulant aussi. On a des sports comme le boccia qui sont déjà qualifiés, le tennis de table, canot-kayak, aviron. Donc, on a plusieurs sports déjà qualifiés. On estime, comme je vous disais, probablement entre 150 et 155 athlètes, là, incluant les guides aussi, pour, par exemple, le cyclisme ou l'athlétisme. Là. Donc, mm-hmm. on va avoir ces sports-là aussi. Et puis, la natation, dans lesquels, normalement, on a des bons résultats.
Ça fera plusieurs sports à surveiller. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre rôle. Je rappelle, Catherine Gosselin-Després, vous êtes directrice exécutive sport au Comité paralympique canadien. On vous souhaite de très bons Jeux à Rio.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Sur les ondes du Canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime D. Pomerleau.
Bonjour à Ça vaut le détour. On entame notre deuxième partie d'émission. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux en utilisant le mot clic CVLD ou sur Twitter @canal_m. Vous pouvez réagir en tout temps aux propos de nos invités ou nous soumettre des sujets qui vous touchent. Alors, j'ai Geneviève Genet, intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, dans nos studios avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est le moment de la chronique mensuelle de l'ACPEV. Aujourd'hui, on va particulièrement se pencher sur les publications qui sont disponibles pour les membres de l'ACPEV.
Oui, exactement. Donc, l'ACPEV, en plus de regrouper les parents sur toute la province, on offre des activités familiales. On offre aussi aux parents de l'information. Donc, ça passe par les publications, les guides et brochures de l'ACPEV. Qui sont disponibles pour les parents qui deviennent membres actifs, qui peuvent les recevoir gratuitement, puis sont disponibles à toute la population aussi pour être téléchargés gratuitement sur notre site Internet.
On parle de différentes publications. La plus récente, c'est la revue annuelle L'Éclaireur, donc oui. Édition 2015-2016 qui vient tout juste de paraître.
Mm-hmm. Donc, la revue, elle peut déjà être téléchargée sur notre site Internet en version PDF ou Word accessible. On a plusieurs articles intéressants. On a mis en couverture l'entraide est au rendez-vous. Puis, on parle aussi, on a une participation record pour la 35e rencontre familiale annuelle de l'ACPEV. On a plusieurs articles intéressants de parents, de partenaires, d'organismes. On a en éditorial « Être parent » de notre présidente Sophie Lacombe. Puis, c'est suivi d'une lettre de Sophie à sa fille Clara, qui est très beau.
C'est à découvrir. Ouais. Et cette revue annuelle, L'Éclaireur, en fait, c'est un résumé, si on veut, de vos activités dans la dernière année. Est-ce que ça a une thématique qui change ou c'est grosso modo souvent le même format?
C'est souvent le même format. Ça change. Ce qui change, c'est vraiment qu'on veut une rétrospective de l'année de la revue, donc 2015-2016, mais c'est vraiment sur différents projets, des thèmes, des témoignages. Donc, les organismes, les parents choisissent le thème qu'ils veulent nous partager de leur année 2015-2016.
Je disais que le tirage est passé à 1000 exemplaires qui sont distribués dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux, dans différents services d'ophtalmologie aussi.
Cliniques c'est quand d'ophtalmologie
même très hôpitaux. En lien avec votre public, avec vos membres. Donc, il y a aussi une copie papier, en fait. Il y a une impression de cette revue-là qui sort.
Oui, exactement. Toutes les publications sont imprimées en version papier. La revue, elle est distribuée gratuitement dans les réseaux, que ce soit réadaptation, clinique d'ophtalmologie, tous les réseaux, les écoles. L'école spécialisée Jacques Ouellet en reçoit aussi.
Donc, il y a plusieurs lieux où on peut aussi la trouver, en plus de la trouver facilement et gratuitement en version accessible. Sur votre site web. Mm-hmm. C'est cette première revue, donc une nouvelle édition 2016 qui vient de paraître, mais vous avez aussi d'autres publications.
Oui, les autres publications, en fait, quand les parents deviennent membres, ils peuvent choisir lesquelles ils veulent recevoir selon leurs besoins puis selon l'âge de leur enfant aussi. On a, entre autres, votre réseau, le guide « Votre réseau d'entraide entre parents 2014-2016 ». C'est en fait un petit répertoire de nos membres qui ont signé une autorisation pour transmettre leurs informations, nom, coordonnées, âge de l'enfant, pathologie de l'enfant aussi. Donc, ça donne une idée aux gens qui veulent voir quelle autre famille vit une situation semblable à la leur, l'enfant qui a le même diagnostic, ou par région aussi. On a un petit lexique à la fin, soit par pathologie ou par région. Donc, ça permet aux gens de se retrouver puis d'échanger avec d'autres personnes. Ils ont les coordonnées, téléphone et courriel aussi à l'intérieur.
Justement, pour permettre un plus grand réseautage et aussi de créer des groupes de soutien par région, des gens qui puissent se retrouver. Ce document, il est réservé, par contre, seulement aux membres actifs.
Oui, exactement. Il est disponible papier aux membres actifs seulement. Pour une question de confidentialité et puis tout ça.
Tout à fait, qui est très évidente. Mm-hmm. Il y a aussi un autre guide, Le plaisir de jouer ensemble.
Oui, qui est un petit guide pour recevoir un enfant aveugle à la maison, qui a été écrit par une maman de l'ACPEV. Donc, ça donne des conseils et des trucs pour la visite des lieux, pour les jeux, pour les repas, pour la sécurité aussi de l'enfant quand votre enfant qui est voyant invite un ami non-voyant ou semi-voyant à la maison, mais ça donne des pistes sur comment le recevoir.
Et justement, ces conseils qui vous ont été donnés par une maman, combien de temps ça prend écrire ça, regrouper ça sous forme de cahier?
Bonne question. Faudrait que je lui pose la question, je serais vous revenir. Ça fait plus que 5 ans qu'il a été écrit, ce petit guide-là. C'est une maman qui l'a écrit avant que j'arrive à l'ACPEV. Mais c'est une bonne question.
C'est là où est-ce qu'on voit vraiment l'implication de vos membres, finalement. Donc, eux-mêmes peuvent amener des trucs et des conseils à d'autres membres, mais aussi, comme l'exemple est vraiment très, très bien choisi, si un parent est avec un enfant qui a un copain ou une copine, justement, qui a une déficience visuelle, qui veut l'accueillir à la maison, comment faire?
Oui. C'est vraiment d'un conseil de parent à parent, comment inviter mon enfant chez vous, finalement.
Mm-hmm. Ouais. Et que ce soit, justement, le plaisir de jouer ensemble aussi en toute sécurité. Mm-hmm. Il y a d'autres petits guides aussi, le guide de création du dossier personnel de mon enfant. Ça concerne surtout, justement, tous les outils, en fait, qui pourraient aider les parents à... Parce qu'on sait que ça peut engendrer beaucoup de rendez-vous, beaucoup de suivi avec différents professionnels, mm-hmm. un plan d'intervention, souvent... Mm-hmm. C'est dur de regrouper ça ensemble et ne rien oublier.
Oui, puis souvent, les parents, c'est qu'ils ont à raconter l'histoire de leur enfant plusieurs fois à différents intervenants, à plusieurs reprises aussi. Donc, on peut le mettre par écrit. C'est vraiment de monter le dossier personnel de votre enfant, puis c'est comme un portrait. Donc, votre enfant, comment il fonctionne, qui il est, ses forces, ses difficultés. Donc, ça aide aussi beaucoup les intervenants pour l'intégration scolaire, que ce soit l'équipe école. C'est un petit guide que le parent peut rédiger puis remettre aux différents intervenants qui travaillent auprès de son enfant.
Effectivement, peut-être justement d'éviter de toujours répéter l'historique de l'enfant, mm-hmm. Et même pour l'enfant aussi, ça peut lui épargner cette tâche qui peut être un peu lourde parfois à apporter, à mm-hmm. toujours expliquer qu'est-ce qu'on vit, comment on travaille,
Puis l'enfant peut y participer aussi, c'est ça qui est intéressant. Quand il est petit, ça va être le parent qui va écrire son portrait, son dossier personnel, mais plus tard, il peut y contribuer, il peut l'adapter... à sa façon, puis le remettre quand il va au secondaire, au cégep, sur le marché de l'emploi. C'est peut-être quelque chose qui peut servir aussi.
Oui, justement, parce qu'il est remis de manière générale à tous les parents d'enfants de 0 à 12 ans. Mm-hmm. Et il est disponible aussi pour les parents qui ne l'auraient pas reçu, qui veulent en faire la demande, même pour justement des plus vieux, adolescents aussi, ou sur dans différentes sphères d'activité. Ça peut être très utile. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres documents, d'autres guides que vous avez pour accompagner les parents.
Oui, il y a le dossier médical de l'enfant qui est en fait pour répertorier toutes les informations médicales, les différents endroits, les coordonnées, les noms des médecins, des spécialistes qu'on rencontre. Ça peut être aussi en réadaptation. Donc, on peut tout mettre ça dans le même carnet, si on veut.
Mm-hmm. Comme un carnet de santé.
Un petit peu.
En plus
gros.
En plus gros et en plus efficace, en plus détaillé aussi.
Exactement.
Et justement, souvent, ce carnet de santé, ce diagnostic nous amène vers un plan d'intervention.
Oui, aussi. Donc, on a le guide d'accompagnement pour les parents, le plan d'intervention. C'est un guide qui a été écrit par une maman de l'ACPEV aussi et qui c'était dans le cadre de sa maîtrise en éducation. Puis, en fait, l'ACPEV l'a édité et puis avec l'autorisation de l'Université de Sherbrooke qui a été justement publié et distribué aux nouveaux parents, aux parents membres de l'ACPEV. Donc, c'est un petit guide vraiment pour savoir c'est quoi le plan d'intervention, comment ça fonctionne, dans quel contexte qu'on a à l'utiliser. Les parents, c'est sûr, en ont autant en réadaptation qu'en éducation au niveau scolaire. Donc, comment ça fonctionne, c'est toujours bien d'être informé là-dessus.
Mm-hmm. Il y a aussi le guide « Mille et une réponses » parce que justement, on doit avoir beaucoup de questions, particulièrement lorsqu'on a un enfant en bas âge qui a une déficience visuelle. Alors, on a ce guide « Mille et une réponses ».
Oui, dans le « Mille et une réponses », il y a vraiment beaucoup de réponses. C'est vraiment un guide pratique. C'est vraiment, je pense, le premier guide qu'un nouveau parent devrait lire. C'est un guide que moi, comme intervenante, j'utilise encore aujourd'hui. Quand j'ai un nouveau parent, je vais me référer dans ce guide-là parce qu'on a plusieurs informations. Il y a d'abord un lexique des différentes pathologies. Donc, quand on cherche une information, c'est quoi cette pathologie-là, cette déficience visuelle-là? C'est défini à l'intérieur. On parle aussi du développement de l'enfant, de l'intégration, autant en service de garde qu'à l'école. On parle de la réadaptation, de différentes ressources, organismes qui sont disponibles en déficience visuelle. Donc, c'est vraiment plusieurs thématiques importantes puis intéressantes à connaître. Puis, c'est sûr que le guide, la dernière édition, date de 2002, mais c'est un projet présentement du comité Accueil, Information et Promotion de l'ACPEV de le rééditer prochainement. Puis, c'est un guide qui avait été fait à la base avec la collaboration d'au-dessus de 40 personnes. Donc, des gens du milieu, il y avait des parents, il y avait des gens du milieu scolaire, des gens du milieu de la réadaptation, vraiment plein de gens qui ont toutes sortes de connaissances par rapport à la déficience visuelle autant théorique que pratique aussi.
Mm-hmm, tout à fait, oui, parce qu'on joint vraiment ces deux côtés-là d'information et de côté pratique. Ouais. Justement, il y avait, il y a aussi, on en a parlé brièvement, toute la question du service de garde, ouais. Un guide aussi pour l'inclusion des enfants. Il y a une déficience. Je voulais aborder en dernière question, ce guide, vos droits et vos ressources.
Mm-hmm.
L'importance de connaître ses droits, effectivement, c'est lorsqu'on est pris dans tous les dédales du plan d'intervention, du diagnostic, on met beaucoup l'accent sur la santé, les services à apporter à notre enfant.
Mm-hmm.
C'est bien d'être informé aussi de nos droits et de ce à quoi on a droit comme ressources.
Oui, c'est toujours important de s'informer là-dessus. Donc, ce petit guide-là fait peut-être un survol puis informe les parents que vous avez des droits, vous avez des ressources aussi de disponibles pour les défendre, vos droits. Comme l'ACPEV est maintenant un organisme de service, souvent, on va accompagner les parents vers d'autres organismes ou vers, dans des situations plus difficiles, on va les encourager à défendre leurs droits ou à demander plus de services ou une meilleure qualité des services aussi.
Mm-hmm.
Donc, ce petit guide-là, ça peut être un bon départ, mais souvent, il va falloir aller chercher d'autres organismes, comme par exemple l'Office des personnes handicapées du Québec. C'en est un, entre autres. Il y a la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec aussi, avec laquelle on est impliqué pour justement aller chercher plus d'informations, mieux informer et outiller les parents.
Tout à fait. En terminant, Geneviève, comment est-ce qu'on peut se procurer ces publications?
Toutes les publications sont disponibles et accessibles sur notre site Internet au www.aqpehv.qc.ca. Dans la section Informations spécialisées, vous allez avoir un onglet Publications de l'ACPEV.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Geneviève Genet, vous êtes intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Merci de nous avoir présenté toutes ces publications vraiment très utiles pour les familles et les jeunes avec une déficience visuelle.
Merci à toi.
toujours la gueule quand je suis près de toi. Tu caches toujours ton jeu comme si j'étais pas là. Tu fais toujours exprès de m'ignorer comme si j'étais le dernier des cinglés.
Mickey 3D avec sa pièce Le Dernier des Cinglés, tirée de son album C'est beau la vie, une parution de 2016. Et j'en parlais en début d'émission, Bell a récemment annoncé à la fin du mois de février dans un communiqué de presse une nouvelle gamme de produits et de services de soutien qui rendent les communications mobiles plus accessibles aux clients ayant des troubles de la parole ou des déficiences cognitives, physiques, auditives ou visuelles. Pour nous en parler davantage, je joins au bout du fil M. Nicolas Poitras, vice-président service résidentiel de Bell. Bonjour, M. Poitras.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qui a amené Bell à créer ces produits mobiles plus accessibles? Est-ce que ça venait d'une demande des utilisateurs?
Ben, en fait, quand on regarde les chiffres, il y a près de 14 % des Canadiens de plus de 15 ans qui vivent avec un handicap, qui fait qu'ils peuvent rencontrer plusieurs obstacles au quotidien qui les empêchent de jouir pleinement de tous les bénéfices qu'on associe normalement à la technologie mobile. Alors, c'est un peu pour cette raison-là qu'on a décidé de lancer une nouvelle gamme de produits et de services qui viennent rendre les communications mobiles plus accessibles aux clients, comme vous l'avez mentionné, qui pourraient avoir des troubles de la parole ou encore des déficiences cognitives, physiques, auditives ou visuelles.
Mm-hmm. On va y aller d'abord par catégorie de limitations fonctionnelles et par produit. C'est possible de nous décrire aussi les produits, leurs fonctionnalités, comment ils aident les personnes. On va y aller avec d'abord les restrictions physiques, touchant peut-être la mobilité ou la dextérité fine.
Oui, ben on a un nouvel appareil qui se nomme Tecla, T-E-C-L-A, qui a été créé par une jeune entreprise canadienne. Et c'est une entreprise main libre qui permet aux clients à mobilité réduite d'utiliser facilement leur téléphone intelligent ou leur tablette, que ce soit Android ou iOS, sans toucher l'écran. Alors, essentiellement, ce que Tecla fait, c'est qu'il fait le lien entre une gamme d'accessoires comme des boutons, des contacteurs au souffle, des systèmes de commande occipitale, des commandes à curseur ou encore les commandes de conduite de fauteuil roulant et l'appareil mobile du client, que ce soit une tablette ou un téléphone intelligent. Donc, on peut servir de tous ces accessoires-là par l'intermédiaire de Tecla pour contrôler sa tablette ou son téléphone intelligent, que ce soit pour envoyer un courriel, répondre à un appel, se promener sur le web ou encore, entre autres choses, faire la lecture d'un livre sur son appareil mobile.
Mm-hmm.
C'est un appareil qui est normalement vendu 613 $. Chez Bell, on le subventionne et donc les clients peuvent se le procurer pour 200 $.
Donc, ce qui reste quand même une certaine accessibilité financière pour les produits, c'est des produits comparables à plusieurs autres appareils qui sont accessibles au grand public.
Oui, absolument. Au niveau du prix, là, c'est dans la gamme de ce qu'on paie normalement pour un appareil mobile, effectivement.
Exactement. Il y a aussi, vous êtes penché aussi sur les troubles de la parole.
Oui, effectivement. On a lancé un nouvel appareil qui est le Doro 824. C'est un téléphone intelligent qui utilise le système d'exploitation Android qu'on connaît bien. C'est un appareil qui est compatible avec les appareils auditifs et qui a aussi des zones et des icônes tactiles de très grand format, en plus d'avoir de très grands caractères, des couleurs vives, ce qui fait que c'est très facile de faire une sélection sur l'appareil, étant donné la grosseur et la taille des boutons et des caractères sur l'interface. Comme je le disais, c'est aussi compatible avec les appareils auditifs. Et il y a un bouton qu'on appelle le bouton d'aide spécialisé qui se trouve à l'arrière de l'appareil, qui est un bouton qu'on peut programmer pour appeler le numéro de son choix.
Mm-hmm.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de naviguer l'interface tactile. On sent le bouton à l'arrière de l'appareil, on l'appuie et ça contacte automatiquement la personne ou le service qu'on aura choisi. C'est un appareil qui est abordable, $49.99. Avec un forfait mobile, donc un appareil facile à utiliser Et aussi bien là, pour des troubles de la parole cognitif ou auditif.
Tout à fait. Et finalement, il y avait justement aussi les troubles de la vue, qui est une de vos clientèles sur lesquelles vous vous êtes penché.
Oui, absolument. C'est une variation de l'appareil dont je viens de vous parler. C'est le Doro 824C. On croit que c'est le téléphone intelligent le plus complet pour les clients qui seraient aveugles parce que l'appareil comporte toutes les fonctions du Doro 824. Mais en plus de ça, ce que je décrirais comme un étui qu'on place par-dessus l'appareil et qui nous permet d'utiliser des vraies touches physiques, des touches tactiles, pour contrôler un appareil qui autrement est un appareil à écran tactile. Alors, ça veut dire que pour accéder à la messagerie, on peut sentir la touche 1 sur l'appareil, on appuie sur 1 et on a accès à la messagerie. Et évidemment, on peut contrôler l'appareil avec commande vocale par la suite. On peut aussi le relier à un appareil braille. Donc, c'est vraiment un appareil complet pour les clients qui souffreraient d'un trouble de la vue. C'est un appareil qui vaut 249,99 et qui offre, comme je le disais, toutes les autres fonctions du Doro 824.
Mm-hmm. Pour développer tous ces produits, vous avez collaboré avec diverses organisations. Combien de temps ça a pris évaluer, tester ces produits avant qu'ils se rendent finalement disponibles pour les clients?
C'est toujours un processus, peu importe l'appareil qu'on lance chez Bell, on veut toujours s'assurer de la qualité de l'appareil, on veut s'assurer que les fonctionnalités qu'on nous promet seront bel et bien celles que nos clients pourront utiliser. Je vous dirais que ça varie d'un appareil à l'autre, mais dans le cas des appareils qu'on lance ici, là, c'est un processus qui a duré près de 2 ans. On a aussi travaillé avec un grand nombre d'associations au pays pour s'assurer de bien cerner les besoins, parce qu'on pensait les connaître, mais c'est bien de s'assurer qu'on les a bien couverts. Alors, on a travaillé avec l'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada, l'Association des malentendants canadiens, l'Association des sourds, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Donc, en plus du travail là, qui a été fait par notre équipe au cours des 2 dernières années, on s'est assuré de bien cerner les besoins de la clientèle en parlant notamment à ces associations-là.
Mm-hmm. Vous avez aussi un centre de services spécialement pour les services accessibles chez Bell.
Oui. Alors, en fait, on a bâti une toute nouvelle section de notre site web sur bell.ca qu'on appelle le Centre des services d'accessibilité de Bell. Il a été conçu pour répondre aux exigences du niveau AA des règles pour l'accessibilité des contenus web. Ce qui veut dire qu'il facilite la navigation avec les lecteurs d'écran et les claviers. On a aussi créé un outil de recommandation d'appareils mobiles, et ça, c'est très intéressant, parce que le client peut choisir les appareils ou chercher les appareils en fonction des caractéristiques qui l'intéressent. Alors, que ce soit des téléphones ou des appareils qui ont une fonction d'agrandissement, la compatibilité avec le service téléscripteur, la prise en charge d'un afficheur braille externe ou encore le mode accès guidé. On peut choisir les caractéristiques qu'on recherche et on va vous présenter les appareils qui répondent à ces caractéristiques-là.
Donc, vous avez quand même certains professionnels, votre personnel, en fait, est formé pour répondre, pour connaître ces appareils-là et répondre aussi aux besoins de vos clients.
Oui, absolument. Donc, on peut évidemment trouver de l'information sur notre site web. On a des magasins parmi notre réseau de magasins qui sont spécialisés, qui détiennent tous ces appareils-là en stock. Alors, on peut aller se les procurer sur place. Et évidemment, on peut nous appeler pour avoir plus de détails là, sur ces nouveaux services et ces nouveaux appareils-là.
Mm-hmm. Monsieur Poitras, quelques mots sur le nouveau service de base télé qui permet d'avoir, entre autres, accès à la chaîne de télévision Ami Télé et, pour nous, la chaîne de radio Canal M.
Oui, absolument. Alors, en fait, on a lancé les nouveaux forfaits télé récemment. Le forfait de départ, qui est le forfait de base à $24,99, ce forfait-là inclut Ami Télé et Canal M. Mais si vous allez vers nos autres forfaits télé, on les regroupe en 3 catégories, là, bon, mieux, meilleur. Et ces 3 forfaits-là contiennent également les chaînes là, Ami Télé et Canal M. Donc, peu importe le forfait de programmation télé qu'on choisit chez Bell, que ce soit sur notre service Téléfib ou encore Bell Télé Satellite, on va retrouver systématiquement dans tous les forfaits sans frais supplémentaires Ami Télé et Canal M.
Merci beaucoup, Nicolas Poitras. Vous êtes vice-président service résidentiel de Bell. Merci de nous avoir présenté aujourd'hui ces nouveaux services, ces nouveaux appareils pour une accessibilité accrue de vos services pour les personnes avec différents types de déficiences. Finalement, on a vraiment pensé à tout le monde.
Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci de nous avoir accordé du temps.
Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à notre programme de l'émission aujourd'hui. Un petit mot pour vous dire ce qui s'en vient à l'émission de demain, mercredi, le 13 avril. Christine Rousseau sera avec nous pour nous présenter une minute sur l'employabilité des personnes en situation de handicap et les programmes gouvernementaux. On découvre Autisme Aide Estrie. On aura aussi les chroniques mensuelles de l'Institut des troubles d'apprentissage et du Centre de référence du Grand Montréal. Je remercie mes invités de l'émission aujourd'hui, M. Nicolas Poitras de chez Bell, Geneviève Genet de l'ACPEV, Catherine Gosselin-Després du Comité paralympique canadien, et on avait commencé l'émission avec Mme Jacinthe Cardinal des éditions Midi 30. Je remercie aussi évidemment mon équipe technique sans qui cette émission n'arriverait pas à bon port chaque jour. Donc, à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.